troisième heure, on va parler du match Canadien-Toronto. On va finir l'heure avec Martin McGuire. On va parler des 60 ans du procès du criminel nazi, Adolf Eichmann. Un des artisans de la solution finale, qui a finalement été condamné à mort par Israël. Ça a été un procès très important. On va vous en parler avec Christian Page. On va parler également avec le porte-parole des débardeurs qui va venir nous expliquer pourquoi ils ont décidé de déclencher donc une grève partielle. C'est rare qu'ils donnent des entrevues, les débardeurs. Alors, on est content de l'avoir. J'ai hâte de voir comment il va justifier une grève dans un contexte de reprise économique post-pandémique, là. Port de Montréal, c'est un poumon économique, hein? C'est un poumon pour plusieurs entreprises. Donc, déclencher une grève à ce moment-ci, là, mettons que le timing est pas ben bon. Alors, on va l'écouter. On va écouter sa version des faits. Mais d'abord, Luc Lavoie. Bonjour, Luc.
Salut, Bernard.
Depuis qu'on a commencé l'émission, Luc, on a eu un retour d'appel de la police de Montréal parce que nous autres, on voulait savoir comment ils s'étaient gouvernés hier, puis s'ils avaient l'intention de se gouverner différemment si jamais il y avait du grabuge encore ce soir. Et là, on a l'inspecteur du service de police de la Ville de Montréal, David Shane, qui est au bout du fil. Bonjour, M. Shane.
Bonjour, messieurs.
Je rappelle
Bonjour.
Que vous êtes conseiller au cabinet du directeur du service également. Alors, Luc est là, vous l'aurez compris, M. Shane. D'abord, dites-moi, est-ce que vous avez été pris par surprise par les manifestants hier? Parce qu'on a vraiment eu cette impression.
Ben oui, d'un sens, c'est que on était présent hier pour encadrer la manifestation, évidemment, comme toujours, s'assurer que les citoyens puissent exercer leur droit fondamental de manifester. Et comme vous l'avez vu, la manifestation a rapidement pris de l'ampleur. Le nombre de participants a triplé en moins d'une heure. Alors, le SPVM s'est ajusté rapidement pour faire face à l'ampleur de la manifestation et évidemment, là, les multiples infractions criminelles qui ont été commises.
OK. Avez-vous l'intention de procéder à d'autres arrestations parmi les gens qui ont commis du grabuge hier?
Bien, il y a déjà eu 7 arrestations qui ont été effectuées en lien avec les infractions d'hier et l'enquête se poursuit pour identifier d'autres individus qui ont posé des gestes déplorables, tels que des méfaits. Vous avez vu les vitrines qui ont été saccagées, également des incendies criminels qui ont été allumés à différents endroits.
Mais pour poursuivre cette enquête, j'imagine que vous devez avoir recours aux caméras de sécurité installées dans les vitrines ou à des gens qui vous envoient des vidéos. Comment vous allez pouvoir identifier ces gens qui ont commis des méfaits de ce genre?
Bien, on le fait là, dans le passé, dans différentes manifestations qui ont viré au grabuge. Alors oui, vous avez raison, on va évidemment consulter des vidéos, mais également, il y a des citoyens qui prennent des vidéos, il y en a qui les posent sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est très important de dire, c'est que ça prend l'aide de la population. Donc, on a besoin que les citoyens qui ont vu, les citoyens qui ont filmé, qu'ils nous interpellent, qu'ils communiquent avec le poste de quartier, avec le 911 ou avec Infocrime. C'est grâce à leur collaboration qu'on va être plus efficace à retracer les personnes qui ont commis les crimes hier.
Monsieur Shane, quand je vous ai demandé tout à l'heure, avez-vous été pris par surprise? Vous avez commencé par me dire oui, d'une certaine manière, on l'a été. Est-ce que c'est parce que, dans le fond, la manifestation, au départ, à tout le moins, ça semblait être une manifestation, oui, de jeunes, mais de jeunes... comment je les appellerais, des jeunes monsieur et madame tout le monde, pas des jeunes qui ont le profil casseur. Est-ce que c'est et donc vous avez été surpris que ces jeunes qui n'avaient pas le profil, mettons, Black Bloc, finissent par briser des vitrines? Est-ce que je décode bien ce qui s'est passé?
Bien, ce que je veux vous dire, c'est que comme dans le cas de toute manifestation, le SPVM fait l'analyse, fait la planification des effectifs requis en fonction des informations qu'on détient et qu'on réussit à trouver lorsqu'on fait la recherche. Et par la suite, il y a toutes sortes de mécanismes en place qui font en sorte qu'on peut répondre agilement à des demandes d'effectifs supplémentaires, comme ça s'est passé hier. Donc, comme je l'ai mentionné, en l'espace d'une heure, entre le début et la fin, à partir du moment où il a commencé à avoir des incidents de grabuge, on s'est ajusté rapidement, on a mobilisé les ressources, les policiers ont établi la stratégie d'intervention, et ils sont intervenus pour rétablir l'ordre.
OK, mais M. Shane, oui? Ma question, dans le fond, je vais être encore plus direct. Vous ne pensiez pas au départ de cette manif être obligé d'avoir recours à l'anti-émeute?
Non. Non, on ne pensait pas ça au départ dans l'analyse qui était faite. Mais comme je vous dis, rapidement, le nombre de manifestants a triplé rapidement. Et là, on a bien constaté là, que il y a des gens qui se sont greffés à la manifestation, qui avaient des intentions malicieuses. Et à partir du moment où les incidents ont commencé, bien évidemment, il a fallu changer notre stratégie, comme on le fait souvent dans d'autres manifestations.
Et quelles sont les informations que vous avez pour la suite des choses? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres formes, d'autres actions de vandalisme ce soir, par exemple, ou dans les prochains jours?
Bien, on souhaite que non, M. Drainville. On souhaite que les gens qui choisissent d'exercer leur droit fondamental de manifester le fassent en toute sécurité et on sera toujours présent pour encadrer les manifestations, s'assurer que ça se passe dans l'ordre et dans le respect des lois.
Mais allez-vous être plus près ce soir, plus près, là, dans le sens d'être prêt?
On sera prêt, M. Drainville. On s'ajuste et on continue à accumuler l'information, à préparer les différents services d'ordre et les effectifs requis. Et évidemment, l'événement d'hier bien, nous porte à croire que s'il y a d'autres manifestations de ce genre, bien, on va être encore plus aux aguets.
David Chain, inspecteur du service de police à la Ville de Montréal, conseiller au cabinet du directeur. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Merci, M. Chain.
Bon, Luc, ton premier sujet a un lien avec la police.
Oui, tout à fait. Hein? Écoute, le magnifique parti qui est à l'Hôtel de Ville, qu'on appelle Projet Montréal, là, ils ont tenu un congrès en fin de semaine, eux autres. Ils ont tenu un congrès, mais ils ont décidé que ça serait à huis clos. Évidemment, c'est un parti, comprends-tu, ouvert. Alors, ils ont fait un congrès à huis clos, parce que selon certains membres, il fallait créer un espace de discussion sécuritaire.
Mais à huis clos, sur ce sujet-là, Luc, ils n'ont pas, ouais. pas été à huis clos toute la fin de semaine.
Non, mais sur ce sujet-là, comme par hasard, c'est quoi le sujet?
Oui.
Roger, il compte revoir la nécessité que tous les agents du corps policier portent une arme à feu. Eh, monsieur, ça va, comprends-tu, dans le même... tu sais, aux États-Unis, il y a eu defund the police, là, on coupe le financement aux policiers. C'est des bébelles de la gauche importées des États-Unis, comme s'ils sont pas assez naturellement gauche, faut qu'ils aillent en chercher ailleurs. Alors, ça a donné ce que ça a donné. Il y a un conseiller d'opposition, Abdelaksari, qui a dit « Nous avons affaire avec un parti qui préfère suivre une idéologie très radicale plutôt que d'œuvrer à la sécurité et à la quiétude des Montréalais. »
T'es d'accord avec lui?
Ben voyons!
T'es d'accord avec le conseiller de l'opposition?
Ben là, il n'y a pas si longtemps... Il n'y a pas si longtemps, on avait les problèmes dans Montréal-Nord, puis les armes qui circulent, puis on voulait créer une escouade spéciale, puis on allait
faire créé,
ça.
Ils l'ont créé.
On l'a créé. Puis pendant ce temps-là, le parti qui veut se faire réélire au mois de novembre, ben il vote pendant un de ses congrès. On va enlever les guns à une coupe de police. Ah ouais? Pourquoi tu ferais ça? Évidemment, la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur en tête, le président, qui dénonce le manque de pragmatisme du parti au pouvoir à Montréal en matière de police. Comme il l'a dit, toute approche susceptible de mettre en danger ses membres ou les citoyens et citoyennes fera l'objet de la plus grande attention de la part de la Fraternité. Moi, j'ai vraiment des fois, là, je sais pas quoi penser. Ça va pas quelque part ici, là.
On dirait qu'ils font par exprès pour se battre. Non, mais attends, il y a des élections en novembre.
Ils se battent, là, ils sont en train de se battre eux-mêmes.
Coderre a même pas besoin de le tirer dessus, il se tire dans le pied tout seul.
En fait, s'il y a quelque chose, si j'étais Denis Coderre, je dirais pas grand-chose. Laisse-les aller. C'est comme on dit, laisse-leur leur corde, ils vont se pendre. Là, ils sont en train de le faire. Comme ça, a pas de bon sens. Il y a pas grand monde qui pense que ça a du bon sens, cette histoire-là. Vous en aviez parlé, toi, Élise Ravary, la semaine dernière. T'as évidemment le cas de l'Angleterre, qui est un cas unique. Mais de toute façon, est-ce que quelqu'un autre que ces hurluberlus demandait ça. As-tu entendu des gens, toi, Bernard, que tu vois dans le quotidien de ta vie te dire « il faudra enlever les guns des polices ». J'ai jamais entendu ça. Mais là, c'est pas grave. Ils nous annoncent une nouvelle avenue des Pins qui va être beaucoup plus belle. Ils vont enlever 40 espaces de stationnement puis ils vont mettre une piste de bicycle pareil comme sur la rue Saint-Denis. Nous autres, on s'en va vers l'élection puis on a hâte. Ça suffit, compagnie. C'est tellement, tellement capoté, ce monde-là.
Bon. OK. Non, mais c'est pas comme si t'avais pas déjà, dans ton cas, toi, là, des raisons de voter pour un autre parti que Projet Montréal. On dirait qu'ils
m'en ajoutent.
Ils viennent de t'en donner un autre.
Ben oui, ils m'en donnent un autre. On va faire une autre piste de bicycle. Ah oui, monsieur. Allons-y en bicycle. Oui,
bon,
monsieur.
Changeons d'univers.
Liberté! Attends une minute, bon.
Non, non, là, t'es plus... allons en Iran.
En Iran, comprends-tu?
Oui.
Comme tu sais, en 2015, il y a eu un accord qui a été signé pour que l'Iran ne se dote pas d'une arme nucléaire. Ça avait été signé avec les grandes puissances, dont la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, la France. Bon. Et là, M. Trump, sans trop expliquer pourquoi, s'est retiré de l'accord, puis les Iraniens ont dit, nous autres, on recommence notre programme nucléaire.
Oui.
Et là, ils ont recommencé leur programme nucléaire, mais Israël en a une peur maladive, en a une peur existentielle, justifiée ou non, enfin, ils en ont une peur existentielle. Il faut se souvenir qu'Israël est le seul pays de cette région à détenir la bombe atomique. Ils veulent pas que personne d'autre l'ait. Alors, quand ils voient que Monsieur Biden a recommencé à vouloir entrer dans l'accord et qu'il y a présentement des négociations qui se déroulent à Vienne. Netanyahou ne veut pas que cet accord-là redevienne opérationnel. Alors, ce qu'ils font à l'heure actuelle, Israël, c'est que ils font des petites attaques terroristes, ils font des attaques terroristes assez extraordinaires. D'abord, l'été dernier, ils ont assassiné le grand Manitou du programme nucléaire iranien. Puis, ils se sont même pas défendus pour dire que c'était pas eux. Cette fois-ci, ils ont fait sauter le centre des centrifugeuse, là, je veux pas...
Oui, le centre d'enrichissement, dans le fond, du matériel nucléaire, dans le fond, de l'Iran.
Ça a été une opération super professionnelle. Le New York Times l'a dit carrément. C'est Israël qui a joué un rôle dans cette affaire-là.
Mais comment ils ont fait ça? C'est-tu encore une fois par en utilisant l'informatique? Parce que ce qu'ils ont fait par le passé, c'est qu'ils ont, d'une certaine manière, infiltré les programmes iraniens grâce à des vers, notamment des vers informatiques, là, des vers VERS, là, comme un vers de terre, mais un vers informatique qui fout le bordel là, dans les... C'est ouais, pas ça qui est arrivé?
Non, c'est pas ça qui est arrivé, mais on n'en sait pas beaucoup de ce qui est arrivé, mais néanmoins, ce qu'on apprend par une source que cite le New York Times, une source anonyme, mais je fais confiance au New York Times,
ouais.
Une forte explosion qui aurait totalement détruit le système électrique interne alimentant les fameuses centrifugeuses qui enrichissent de l'uranium sous terre. Alors, c'est le principal centre de recherche nucléaire en Iran. Et puis, là, ils promettent, ils crient vengeance, mais ils crient constamment vengeance. Ils ont une peur bleue d'Israël comme Israël a peur d'eux. Hein. Ce sont vraiment les deux scorpions dans une bouteille. Alors, on parle de sabotage. Enfin, tu sais, c'est comme assez explosif, toute cette histoire.
Oui, explosif, c'est le cas de le dire. Mais toi, tu penses-tu... C'est parce qu'à un moment donné... Je veux dire, Israël ont beau être, extrêmement sophistiqués, les Iraniens sont aussi... c'est un peuple...
Sur le plan militaire, non.
Non, je comprends, mais c'est un peuple quand même qui a des très grandes universités, qui a des très grands scientifiques. À un moment donné, je me pose la question... La capacité d'Israël de nuire au programme iranien atteindra à un moment donné sa limite, Luc. Je veux dire, leur capacité à faire du sabotage comme celle-là, tu penses qu'elle est pas infinie? Moi, je pense qu'elle est pas infinie, là, à un moment donné.
Je te rappelle que dans les années 2000, il y avait attaqué directement des avions de chasse israéliens, avaient fait exploser, il avait détruit complètement le centre de recherche nucléaire. Alors, ils sont prêts à aller très, très, très loin, Israël, dans cette volonté d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme atomique. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas de fin. Et surtout que Netanyahou, qui vient de traverser une autre élection où il n'y a pas eu assez de votes pour former un gouvernement, là, il est en train d'essayer de former une coalition, puis ça va finir dans un autre vote, ce qui va être le quatrième en 3 ans. Et puis, là, à chaque fois qu'il pose des gestes comme ceux-là, les Israéliens ont une peur bleue de l'Iran, qui ne fait pas secret, qui aimerait éliminer ce qu'il appelle l'entité sioniste de la planète Terre.
Alors, mais tu crains pas une guerre, toi, entre les deux pays, en terminant, Luc? Tu penses que
Je crains des escarmouches et je crains l'escalade qui pourrait s'en suivre, OK? Parce que t'as la Russie qui est juste là installée en Syrie, t'as les Américains qui sont là avec une flotte de porte-avions et tout ce que tu veux. C'est toujours le danger de l'escalade, mais des escarmouches entre Israël et l'Iran, oui, je m'y attends, puis ça va arriver tôt ou tard.
OK. C'est pas trop rassurant ce que tu me dis
non,
là.
C'est pas
mais en autant que ça reste à l'état d'escarmouche, moi je crains comme toi, à un moment donné, on rentre dans une espèce d'escalade et c'est dangereux que.
Ben, d'abord, il peut y avoir un accident qui se produit.
Oui, c'est ça. On peut perdre le contrôle à un moment donné du processus d'escalade.
Et j'ai fait une erreur dans ce que je disais tout à l'heure, Bernard. Là. ce n'est pas en Iran qu'ils ont attaqué les installations nucléaires, c'était en Irak.
Oui.
Il y avait un début d'installation nucléaire en Irak et c'est là que ça a été détruit.
C'était dans les années 80, si je ne m'abuse.
90 peut-être, oui.
OK, enfin. On se reparle un peu plus tard quand on va parler du match de ce soir, Luc, OK?
Avec plaisir.
À tout à l'heure. On s'arrête au retour, parlant d'Israël. On va vous parler donc de ce procès historique d'Adolf Eichmann, qui a été capturé en Argentine et qui a dû subir un procès par la suite. Alors ça va être vers 14h30-35. Et au retour de la pause, on va parler avec un représentant des débardeurs qui va venir nous présenter sa version des faits.